originale avec les Nakamura, Daniel Morin.
Oh oui, baby.
Albert.
Bonjour.
Avec vous, Alexis Le Ressignon.
Bonjour.
Frédéric Sigrid.
Bonjour.
Et notre invité, Stéphane.
Bravo. Bonjour.
À l'Observatoire, c'est à croire que vous avez bien choisi votre éditeur, livre de mots L'apostrophe, ivre, comme un alcoolique qui ne peut se passer de tous ces mots, sans pour autant nous saouler quand on vous lit, en tout cas. L'Observatoire, il a fallu les convaincre, d'ailleurs bonjour.
Bonjour Nagui.
Stéphane,
bonjour
ça moins des choses. Il a fallu les convaincre d'accepter ce que vous dites d'ailleurs dans l'avant-propos de votre livre, d'accepter l'idée, la tournure, l'esthétique de ce livre, parce qu'il est particulier quand même.
Oui, en fait, à la base, mon éditrice, Muriel Beyer, souhaitait que je fasse un roman. C'était un peu le prolongement logique de ce que j'avais fait.
Vous l'avez bien berné, là.
Ah ouais, ça.
Et c'est vrai que je suis parti sur les aphorismes et sur des pensées personnelles. Et puis, est venu le moment d'écrire une dédicace. À ce moment-là, vous écrivez une dédicace pour des proches, un ami,
quelqu'un. À vos filles.
À mes filles. Voilà. Et puis, j'ai deux dédicaces, trois, quatre. Puis, il y a quand même une cinquaine personnes que j'ai envie d'évoquer là-dedans. Et puis j'appelle mon éditrice et je lui dis, est-ce que ça se fait d'écrire trois, quatre dédicaces? Elle me dit, non, vraiment, l'usage veut qu'on en fasse deux, trois, mais maximum. Ok, très bien. Et du coup, je lui ai envoyé 75 dédicaces.
Exactement.
Parce que c'est devenu un exercice de style d'adresser ce bouquin d'abord à des gens précis, de ma famille, des amis. Et puis.
Oui, enfin, il y a une dédicace à cette page blanche qui ne l'est plus.
Oui, enfin, puis c'est devenu des absolus.
C'est ça.
Et puis, voilà. Je me suis beaucoup amusé à écrire des dédicaces parce que c'est une formule qui fonctionne pour d'autres choses. Et donc, la moitié de ce bouquin est composée de dédicaces. Et là où j'ai dû convaincre mon éditrice, que j'appelle éditriste, c'est que je voulais vraiment que ça soit mis en page comme une vraie dédicace, c'est-à-dire une page blanche et une seule phrase. Et là, elle m'a dit ça va pas être possible parce que ça fait beaucoup de papier pour une phrase.
C'est de l'escroquerie, elle vous a dit.
Oui, des escroqueries.
Les forêts sont pas d'accord non plus.
Mais les haïkus, c'est pas non plus.
Mais voilà. il fallait respecter la mise en page, le cadre, pour bien comprendre que c'était une dédicace et pas autre chose.
Ça se lit à la fois, on peut aller piocher où l'on veut, ce que l'on veut, et en même temps, il y a des thèmes quand même, il y a des familles qui réunissent quelques aphorismes entre eux.
Oui, moi je les j'ai pas travaillé ça comme ça, c'est-à-dire que ça venait comme ça peut venir à n'importe quel moment de la journée, donc je notais.
On se met pas à travailler, on se met pas à réfléchir, à chercher quel aphorisme on pourrait faire autour de la mort, par exemple.
Oui, non, si, parce que quand je suis rentré dans ce processus, je me dis
oui, non, et si.
Je coche quelques comme ça, toute l'émission, il y aura bonjour, au revoir.
Sinon, oui.
Comment allez-vous? Et non, merci.
Stéphane De Gros, je vous demande de vous concentrer. Oui, non, ou si.
Eh bien, notamment.
Prochaine question.
Alors moi j'ai une réponse. Oui, non, si.
D'accord.
C'est-à-dire qu'au début quand j'écrivais, ça venait, tous les thèmes étaient les bienvenus. Et puis quand je me suis dit que ça pouvait faire un livre, je suis parti par thématique où je me dis tiens la mort, ça m'interpelle parce que il y a quelque temps une journaliste m'avait demandé de trouver une phrase pour illustrer l'article qui aurait pu se retrouver ou qui se retrouverait un jour sur ma pierre tombale et qui serait mon épitaphe. Et je dis mais j'ai pas vraiment pensé à une épitaphe, mais
ça se fait plus même d'ailleurs les
Encore des gens qui meurent.
Non, des gens qui meurent, mais généralement, il y a. Malheureusement, je vais quelquefois dans les cimetières et je vois les noms, les prénoms, les dates, point. Il n'y a pas de grandes phrases.
Parce que les gens n'ont pas de culture.
Enfin, je me repose ou.
Parce que vous fréquentez des analphabètes.
Faut être quelqu'un pour avoir une épitaphe déjà.
Non,
c'est, normalement, c'est lui qui décide, qui veut avoir sur sur sa pierre tombale une phrase. C'est ce qu'elle vous demandait comme exercice.
C'est ce qu'elle me demandait. Et du coup, je me suis dit, tiens, bon, je n'y avais pas pensé et je lui ai proposé phrase. Terminale.
Phrase terminale, d'accord.
Et après, je me dis, tiens, il y a moyen de faire des trucs un peu amusants sur la mort, et c'est pour ça que je suis parti sur la thématique de la mort.
Oui, il y avait aussi au cimetière sur qui je tombe.
Oui, bien sûr.
Évidemment, la vie est le meilleur moyen de passer du néant à nulle part. Ma mémoire est tellement mauvaise que je ne me souviens même pas de ce qui va arriver demain. Carpe diem, la mort est une perspective qui me tient en vie. Et donc, il y a cette fameuse phrase terminale, ou alors toute une vie pour en arriver là. C'est à la fois drôle et en même temps, vous ne cherchez pas la vanne pour la vanne, il y a toujours quand même le fond qui compte, c'est pas que la forme.
Non, alors, pour avoir relu mes
votre
textes,
livre.
Pour essayer, oui, parce que j'adore cet auteur.
Vous êtes exigeant.
Il y a toujours... j'ai l'impression qu'il y a deux significations dans la phrase. Il y a le jeu avec le mot, et puis il y a le fond sur ce que...
Il y a le jeu, G-E-U-X, ou G-E-U-E, et J-E-U, je vais y arriver, et le jeu, J-E.
Où est-ce qu'on est?
Parce qu'il y a vraiment de vous, c'est psychanalytique par moment, certaines de ces phrases.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas, ce ne sont pas que des calembours ou que des jeux de mots. Je suis très animé par par la manière dont on peut parler de la mort, parce que moi j'ai envie d'en parler plutôt que elle parle de moi. Mais de moins en moins, parce que comme je me l'approprie, j'en parle quand je veux, de la manière dont j'ai décidé d'en parler.
Ah, ça vous donne la sensation
d'avoir arrive de plus en plus vite en plus.
Ça vous donne la sensation.
Oui, c'est ça. Mais si on
ça vous donne la sensation d'avoir une forme de contrôle, quoi, quelque
oui,
part,
bien
en
sûr.
L'invoquant, en la convoquant quand vous voulez.
Absolument. Ouais. Et de
c'est un leurre.
Et d'en jouer.
Tu veux planter l'ambiance,
c'est ça, un peu
ça rassure, mais ça marche pas complètement.
Ça ne marchera pas, Stéphane.
Mais il y a d'ailleurs une phrase dans le livre à propos de ça, c'est le temps n'existe. Alors je sais plus ce que je dis.
La phrase, si le temps n'existe pas, quelle heure est-il? Voilà. LEU2RE. D'accord.
Bien sûr. Et tout comme je parle de Séguéla, où je dis qu'il a l'horloger au poignet.
L'horloger au poignet. Ça, j'adore. Stéphane De Gros, des questions concernant sa vie, son œuvre, sa carrière. Dites-moi, s'il vous plaît, à quel jeu vous risquez de perdre contre lui?
Aux échecs, aux dames?
Oui. Ouais. Aux échecs. J'ai souvent raté mes réussites et gagné aux échecs. C'est-à-dire que gagner à une réussite, c'est extrêmement plus rare, en tout cas, que de gagner aux échecs. Ça, c'est le au-delà du paradoxe du jeu de mots, c'est quand même un jeu de quoi? De calcul, de matheux, les échecs. C'est un jeu de réflexion, d'anticipation, de stratégie. Comment vous le vivez?
C'est un jeu. Je m'attendais pas du tout à cette question, donc je vais vous répondre. C'est un jeu.
Ok.
Mais vous vous sentez stratège, manipulateur,
non,
calculateur, anticipateur quand on joue aux échecs.
Anticipateur.
Voilà, c'est ça.
Oui, je suis un anticipateur. Je suis pas du tout un stratège.
Ouais.
Précoce.
C'est en fait tout ça est venu de l'époque où j'ai commencé à faire de l'impro et d'avoir une gymnastique de l'esprit, d'associer les sons, d'associer les sens et d'être en éveil permanent par rapport à ça, c'est de faire des associations. Quand vous êtes en éveil permanent et qu'effectivement vous anticipez les choses, les échecs ce n'est que de l'anticipation.
En jouant une partie avec un ami ou même à la limite une personne que vous ne connaissez pas, vous arrivez à évaluer son intelligence ou sa capacité d'anticipation.
En tout cas, c'était intelligent de le faire.
Ouais. Stéphane Zweig, vous l'avez lu, le joueur d'échecs?
Oui, bien sûr.
C'est formidable. Qu'est-ce qui différencie Stéphane des autres spectateurs dans une salle de cinéma?
Il dort, il pleure, il mange, il rit à contretemps.
Je vais accepter ça. En fait, vous ne riez jamais.
Ah bon?
C'est pas à contretemps. Vous n'êtes pas bon public finalement.
Non, c'est-à-dire que je ris pas au même moment que les autres.
C'est un contre-temps.
Donc c'est un véritable contre-temps.
Oui. Ou
vous ne riez pas pour les mêmes choses?
Je ne ris pas pour les mêmes choses.
Vous pensez à quelque chose d'autre?
Comment?
Vous pensez à quelque chose d'autre?
Non, je ne ris pas à contre-temps, c'est-à-dire que je ris carrément à d'autres moments et je ris pour d'autres choses. Parfois les gens me prennent pour quelqu'un de bizarre, souvent même d'ailleurs. Et puis, tout le monde se marre autour de moi, et moi, je trouve ça consternant, la scène que je vois. À l'inverse,
ça dépend des films, j'imagine.
Ah, c'est très souvent.
Vous parlez des comédies populaires, par exemple?
C'est un petit truc, moi, qui peut me faire rire, mais hurler de rire dans
La liste de Schindler.
La liste de Schindler, c'est...
Arrêtez!
Je me souviens avoir vu un film de Woody Allen, qui s'appelait Hollywood Ending. J'étais dans une salle de cinéma, je riais tout seul comme un idiot, et les gens me regardaient consternés, et à l'inverse, voilà, je riais pas pour des trucs qui est apparemment évidemment très drôles. C'est parce que j'aime bien le petit détail, le petit truc.
Donc quand vous jouez une comédie, vous ne riez pas en même temps de vos propres actes drôles que le public quand vous êtes dans la salle?
Heureusement d'ailleurs. Quand je joue une comédie.
Ouais.
Oui.
Quand vous jouez et que vous la regardez en public dans une avant-première.
Il y a
un décalage.
Non, alors déjà quand c'était une avant-première et si je me vois, je ris pas du tout. Je trouve ça pas drôle du tout de se voir. Mais c'est le second plan moi qui m'intéresse. C'est pas ce qui se passe au premier plan. Alors en général, la comédie se joue au premier plan. C'est pour ça que j'aime les comédies à l'anglaise.
Donc vous cherchez la coccinelle de Gottlieb
Absolument.
Dans la case.
Mais le second degré, c'est un peu ça.
Bien sûr.
C'est d'observer ce qui se passe derrière.
En arrière-plan, oui.
Et c'est ça qui me fait rire.
Enfant, Stéphane De Groot n'aimait pas le football, contrairement à ses camarades de jeu. Il aimait un sport qui était plus étonnant, en tout cas pour
le water polo.
Non.
La patinage artistique?
Non.
Le karting?
Le golf?
Le karting, non.
La GRS?
Non.
Un sport étonnant?
Rugby. Un sport étonnant pour un enfant. Alors pas loin.
Allez-y, parce que même moi je ne sais pas.
Pardon ?
Le tennis.
Pas loin ?
Le squash.
Le
ping-pong.
Exactement.
Le squash.
Vous avez le squash.
J'adore le squash.
Oui, mais c'est pas spécialement un sport d'enfant, le squash. C'est un truc d'adulte.
Quand vous étiez enfant.
C'est un truc d'adulte où on veut faire du cardio, maigrir et faire travailler son cœur. C'est pas un truc. Un enfant va vous dire je joue au foot, je joue au tennis.
Mon cœur, ça me fait penser à une chanson de.
Donne-moi ton cœur, baby.
Alors vous parliez de maigrir, peut-être que je faisais ce sport pour maigrir parce que je me trouvais très très gros quand j'étais
enfant.
Petit.
Enfant ?
Ah oui.
Ouais, bah vous avez eu au rendez-vous à Twitchers.
Oui, c'est ça.
Mais vous, c'est pas hyper populaire le squash, c'est-à-dire que pour avoir accès au squash,
non,
avoir une
pays.
Idée. Non, je sais pas, je me demande. Mm-hmm. Est-ce que c'était hyper populaire le squash ?
Non. En fait, je sais pas, moi, j'ai toujours eu envie de faire les choses parce que j'observais les gens. Et à l'époque, il y avait un champion indien ou pakistanais parce que le squash, ils sont très forts là-bas. Et j'avais envie de ressembler au champion pakistanais. Tout comme j'ai eu envie de ressembler à Gilles Villeneuve en Formule 1, comme j'ai
automobile.
Eu envie de ressembler à Louis de Funès. J'ai toujours eu envie de ressembler à des gens, parce que ma démarche, c'est d'observer. J'ai jamais pu acquérir de théorie, je sais pas.
Vous apprenez comme ça ?
C'est comme ça que j'apprends, c'est en regardant, je photographie les choses.
Y compris en reproduisant un geste au sport, comme reproduire une
totalement.
Manière de jouer au cinéma.
Totalement. Mmh. Et ça, parfois, au cinéma, au début, quand j'étais pas très aguerri, je demandais au metteur en scène, au réalisateur de me montrer.
Ou tu veux que je le fasse comme qui, en fait ?
Oui, alors qu'aujourd'hui, je déteste ça au cinéma, parce que j'arrive à maîtriser la chose. Mais quand je maîtrisais à moitié les éléments, j'avais besoin de voir pour reproduire.
Puis l'avantage du squash, c'est qu'on peut jouer en étant seul. On n'est pas obligé d'être en équipe ou d'attendre.
Toujours plus sympa à deux, mais on peut jouer tout seul aussi.
Oui,
c'est
plein
de choses qu'on peut faire tout seul, mais toujours plus sympa à deux. Ou à trois ou à quatre, ça c'est selon.
Mais on est à l'antenne. À ses débuts en France, Stéphane De Groot donc arrive à France Télévisions pour présenter ses premières vidéos. Avec qui a-t-il rendez-vous ?
Le patron
à France Télévisions.
À France Télévisions.
Un personnage ?
Avec Nagui.
Genre vous ?
Non.
Un animateur connu ?
Non.
Un patron de chaîne ?
Non.
À France Télévisions, on arrive avec qui ?
Non, il arrive avec ses vidéos pour les présenter.
Un stagiaire ?
Non.
Il a un rendez-vous fixé ?
Juste avec ses vidéos. Le médecin du travail ?
Pas vraiment un rendez-vous fixé. Il va...
Ah, il se pointe un peu.
Il se trompe
au petit bonheur la chance.
Exactement.
Donc c'est pas un rendez-vous avec une personne.
Rendez-vous avec personne.
Ah oui, d'accord.
C'est ça, je veux pas non plus vous aider.
Non, mais c'est
il n'avait il n'avait pas rendez-vous qu'il les voit. Personne. Super, bonne réponse. On y va. Alexis, tu as le point. C'est donc au culot que vous avez avancé dans votre carrière.
Au début, ça n'était que ça. Comme je pouvais prétendre à rien. J'avais aucune formation. Je venais du fin fond de ma Belgique. Je voulais être comédien, pilote de course, astronaute. Enfin, c'est mal barre pour en termes de crédibilité.
Et, choisir.
Et donc un jour, j'ai débarqué avec un pilote d'une séquence qui s'appelait File dans ta chambre, où c'est un père qui répond aux questions de son fils, pourquoi la Terre est ronde, des choses comme ça. Et je répondais forcément à côté. Donc j'avais mis ça en boîte, ça coûtait pas très cher. J'avais une caméra, un copain qui m'avait fait la mise en boîte. Et donc je débarque forcément, je prends le train et je débarque chez France Télévisions.
Pardon. Et pourquoi pas aller en Belgique à la RTBF et pourquoi viser la France et le service public ?
Parce que quand on vous fait du ski, vous allez à la montagne, si vous voulez. Faire de la voile, vous allez en Bretagne. Si vous voulez faire de la télé ou du cinéma, a priori, vous allez en France. C'est un peu là que ça se passe. Enfin, c'est pour moi.
Ils vont bien le prendre, donc, les amis de la RTBF.
Mais j'ai fait beaucoup de choses à la RTB aussi.
Ah
mais
bah,
avant,
je voulais... C'est fini maintenant.
C'est terminé. Et donc, j'ai débarqué dans le hall en disant bonjour, je voudrais voir la responsable du programme. Mais de quel programme ? Du programme. du programme de France Télévisions.
C'est une caméra cachée.
Vous ne vous souvenez pas de ça, mais j'avais fait ça aussi chez Canal+, où j'avais laissé un message le matin à un type qui s'appelle Bruno Gaston, directeur des programmes, en disant « Je viens vous voir ce matin parce que j'ai un truc à vous proposer ». Je ne le connaissais pas du tout, c'était sur son répondeur. Donc j'arrive le lendemain matin à la première heure, en disant à la réception « Bonjour, j'ai rendez-vous avec monsieur Bruno Gaston ». « Ah bon, vous êtes qui ?» « Stéphane De Groot ». « Qui ?» « Stéphane De Groot ». Et puis on m'a dit « Ben non, vous n'avez pas du tout rendez-vous avec monsieur Gaston ». J'ai dit « Mais laissez-moi rentrer quand même, je vais le trouver ». Donc ils m'ont laissé aller dans les couloirs de Canal+. Je suis arrivé dans le bureau de Bruno Gaston.
Je suis arrivé dans le Bruno, non vous avez dit non.
J'ai fait le Gaston.
On sait comment vous avez réussi.
Et la gaffe. Et il m'a dit « Mais qui êtes-vous » J'ai dit « Mais on se connaît, je vous ai laissé un message sur votre répondeur cette nuit ».
Génial.
Il m'a dit « Mais vous êtes complètement fou, j'ai du travail ».
Il a dû aimer ça, non ?
Mais dingue. Ensuite, il a vu ma cassette, il m'a dit « Bon, on va voir ce qu'on peut faire », c'était pour Nulle part ailleurs. Et l'animateur de Nulle part ailleurs cette saison-là, c'était vous.
C'est pas vrai.
Et je me suis retrouvé dans un bureau avec vous.
Oh là là.
Poursuivez.
C'était une émission spéciale Belgique, que j'avais entendu parler de cette émission deux jours avant. Du coup, j'avais fait un micro-trottoir complètement barré, que je voulais proposer pour Nulle part ailleurs, dans le cadre de cette émission-là. Et donc j'ai débarqué...
Mais je n'en ai aucun souvenir, Stéphane.
Ça me touche beaucoup.
C'est une catastrophe.
Et alors qu'est-ce qui s'est passé avec
ce micro-trottoir ?
Ils m'ont gardé toute la matinée en disant « On va essayer de le caler ta vidéo ». Donc je suis resté la matinée...
Et ça n'a pas été le cas ?
Et ça n'a pas été le cas.
Que des regrets. que des regrets de ne pas avoir
des été rendez-vous manqués, mais on s'est rattrapé après.
Oui, oui, oui. Enfin, bon, des regrets.
Ça sera l'objet d'une autre émission.
20 ans plus tard,
c'est beau ce moment quand même.
Mes plates excuses.
C'est un peu touchant. Hein. J'ai un peu envie de pleurer quand même.
Mais ouais. Je suis triste d'avoir raté ça. À part les livres, qu'est-ce que Stéphane de Gros t'achète de manière compulsive?
Des bons becs.
Les vêtements,
les huîtres,
des gâteaux,
c'est café. C'est la nourriture.
C'est pour le plaisir.
Des gâteaux,
chocolat.
Non,
c'est de la nourriture. Des confiseries, des berlingots.
Non, pour le plaisir.
Ça se mange ou pas?
Ouais, pour le plaisir.
Des huîtres.
Évidemment pour le plaisir.
Et c'est des frites.
C'est essentiel. C'est essentiel. C'est
chocolat.
Mais non.
Des clopes.
Essentiel.
Ah, des chaussures. Des.
Ça se mange.
Mais oui.
Du vin.
Oui. Merci Alexis, t'es en forme, dis donc.
Mais non, mais quand les autres sont vraiment nuls, je trouve.
Évidemment, carpe diem, le vin. Vous aimez ça?
J'ai découvert le vin nature. Alors du coup, je m'y mets triplement parce qu'on n'a pas la barre le lendemain. Donc on l'a le soir même, mais pas le lendemain.
Ouais.
J'adore ça, oui. J'adore ça parce que c'est un marqueur, je trouve. Moi, je me souviens vraiment plus des moments que du vin que j'ai bu.
Oui, ou du partage, ou des personnes avec qui on boit.
Ouais. Bon, un très très bon vin seul, ça n'a vraiment pas le même goût. Donc j'aime ça.
Non, c'est le symbole du partage, on est totalement, totalement d'accord. Livre, justement, tiens, on passe du vin à livre, L'apostrophe, ivre de mots. Stéphane de Groot, vous enfoncez le clou sur là où on vous attend en permanence, c'est-à-dire le calembour, le jeu de mots. Parce que je me suis demandé, après les papiers que vous avez faits, les chroniques, qu'on vous demandait de jouer avec la langue française, s'il n'y avait pas, pour le comédien et pas pour l'auteur, une peur d'être enfermé dans cette case-là, et le jour où vous faites une phrase extrêmement normale, sujet, verbe, complément, d'objet, oui, on dit mais elle est où la vanne, elle est où le jeu de mots, cette espèce d'obligation systématiquement d'avoir la pirouette cacahuète qui arrive à la fin de la phrase. J'aime bien pirouette cacahuète.
C'est bien, c'est très bien.
C'était bien placé.
Il était j'ai dit que depuis que le livre est sorti et les gens qui l'ont entre les mains, ils sont surpris de pas avoir plus de... Enfin, ils sont déroutés de voir des phrases lourdes de sens, pas forcément toujours très amusantes.
Oui. C'est un bouquin assez intime. Il y a deux lectures, et on peut vraiment... Oui.
C'est pour ça qu'il faut l'acheter deux fois.
Ne voir que le jeu de mots.
Il y a deux livres dans votre livre.
On peut voir que le jeu de mots, ou on peut voir aussi le sens et donner la réflexion. L'ironique s'amuse de rien, le cynique s'amuse de rien. C'est un jeu de mots, mais en même temps, c'est une vérité.
Oui, mais en fait, si on réfléchit bien, dans la notion absurde des choses, il y a beaucoup de vérité. Il y a des phrases qui semblent absurdes, mais qui sont, c'est pas à moi de le dire, mais c'est plein de bon sens. Et d'ailleurs, je dis ça de manière
C'est plein de bon sens. C'est aussi une manière de voir la vie, de la vivre, de la percevoir, de la ressentir. Enfin non,
c'est déjà de voir la vie. Je pense qu'il y a plein de gens qui s'empêchent de la regarder, de l'observer.
Puis il y a des phrases énigmatiques. À tous les veaux nourris sous la mer. Est mort noyé.
Oui.
Vous surprendre plusieurs fois celle-ci, ouais, c'est dire. Tiens, qu'est-ce
que derrière. Et puis, alors, surtout en préparant cette émission, je me suis dit qu'il y avait surtout des phrases qu'il fallait lire et pas écouter, parce que l'orthographe, le sens.
Il y a l'homophonie, mais il y a.
Voilà, c'est ça.
La même l'orthographe est différente.
Oui, à tes souhaits, vœux pieux, ça se lit. C'est là, ça. Je viens de le dire, hein, mais.
Ouais, c'est ça.
Bah, le vin et le verre de vin rouge. De vin, D-E-V-I-N-T.
T'imagines la tristesse de la situation si chaque fois on épelle toutes les phrases que l'on va dire.
Non, mais ce qui est amusant, c'est que depuis que le livre est sorti.
Ça va faire vendre le livre, ça.
Les gens qui l'achètent s'approprient les phrases, font des captures d'écran et les postent sur les réseaux sociaux. Alors, dans un premier temps, ça m'a surpris en me disant, mais est-ce qu'ils vont balancer tout le bouquin comme ça? Et puis après, j'ai trouvé ça
c'est la meilleure pub qu'on puisse vous faire.
C'est non seulement c'est une pub, mais ça me touche parce que je vois que les gens s'approprient un certain nombre de phrases.
Non, mais il y a même des phrases qui peuvent rentrer dans le langage quotidien, comme c'était le cas. On parlait de Canada, de Guignol. Il y a eu des phrases des Guignols qui sont venues des gimmicks et même presque dans le langage quotidien. Mais quand vous dites, il fait un temps de chat, est-ce que ça veut dire qu'il fait beau? Je trouve ça génial, c'est-à-dire de décider qu'il y a le temps de chien, ok, et puis il y a le temps de chat. Point.
Mais il y a plein de phrases.
À l'après-verne, deux choses l'une, l'autre le soleil, comme c'était dans Parole. Vous aimez ça, vous aimez jouer avec. Parce que là, il n'y a pas un véritable jeu de mots. Quoi.
Exactement, c'est ce que vous dites. Il n'y a pas que des jeux de mots. Mais il y a plein de phrases aussi où j'avais l'impression, en les écrivant, que ça avait déjà été dit. Alors que non, enfin peut-être, mais je n'avais pas l'impression. Tout comme le titre, Livre de mots, j'étais parti sur un autre titre.
C'était
je suis dans ma douche, puis je me dis au fond.
L'autre titre, c'était quoi?
Je suis dans mais ma ça sera pour le prochain ouvrage.
Non. Il va déposer ?
Si, il est déposé.
Ah bon, alors, on peut le dire.
Mais je vais pas le déposer. Enfin, il est posé.
Ok, très bien.
Et donc, livre de mots, j'y pense un matin, je me dis, mais bien sûr, ça doit s'appeler livre de mots. Et j'appelle mon éditrice en lui disant, mais j'ai un titre, mais je pense qu'il est déjà pris, forcément qu'il est déjà pris, livre de mots. Elle dit, ben oui, forcément qu'il est pris. Et puis en fait, il n'était pas pris. Alors que ça me paraissait évident pour un bouquin.
On n'a pas le droit d'appeler, parce que des chansons qui s'appellent Je t'aime, il y en a beaucoup dans tous les répertoires de tout le monde. Un livre, on n'a pas le droit de lui donner un titre qui existe déjà.
J'ai pas le droit de faire une émission de radio qui s'appellerait La bande originale.
Ça, c'est pas pareil.
Pourquoi ?
Parce que Nagui Veillogrin.
Non, parce que je crois que les émissions, les titres d'émissions de radio ou de télévision sont déposés comme des marques.
Et le livre aussi, je pense.
Et voilà, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Les Misérables.
Non, mais c'est tombé dans le domaine public parce que Victor Hugo, c'est quand même mieux. Donc peut-être qu'il y a cette règle-là.
Non, c'est une.
Non, ça passe pas. Non, ça passe pas.
Ça passe pas.
Si la nuit tous les chats sont gris, qu'en est-il des châtains ? Bon, moi j'aime bien. Je me suis régalé en tout cas. C'est un bon livre.
Alors, il y a aussi. Il y a des gens que j'évoque dans ce livre, que je connais ou pas.
Claude Lelouch, notamment.
À part Séguéla, vous voulez dire.
Ouais. À part Séguéla, oui, il y a des gens que j'admire.
Édouard Baird. Improvisateur, vous l'appelez.
Oui, d'entre les mots. Navigateur. Navigateur d'entre les mots. Navigateur solidaire d'entre les mots.
Il y a Jean-Louis Trintignant aussi, à qui vous rendez hommage, parce que sans lui, vous n'auriez pas eu peut-être la passion de la course et de se dire, je peux être et acteur et pilote.
Ouais, c'est vraiment des gens qui m'ont, non seulement qui m'ont fait rêver, mais qui m'ont fait penser, qui m'ont fait croire qu'un rêve, ça pouvait être autre chose qu'un rêve, mais que ça pouvait vraiment devenir quelque chose de réel, un métier, une activité pleine, et Trintignant en fait partie. Mais aussi dans d'autres domaines, un type comme Sylvain Tesson, que je ne connais pas personnellement, dont j'adore la plume.
Vous le déclinez, oui, le Sylvain Tesson.
Ouais. Oui. Oui, je l'ai pas là en mémoire, mais c'est vrai que je lui rends.
Ça tombe bien,
hommage.
Moi je l'ai pas non plus sous les yeux, mais on va le retrouver. Et puis à Raymond DeVos, évidemment, là, il y avait pas d'autre possibilité. Il fallait qu'il soit cité.
Ouais.
Mettre des mots. Des mots comme démonstration, comme
absolument.
Ou démoniaque.
Oui.
On va savoir. Le livre est publié à l'Observatoire, livre de mots. Stéphane De Groot, on va évidemment parler avec vous aussi théâtre et cinéma, mais d'abord quelques révélations peut-être que nous réserve François.
Salut les amis, salut Nagui. Coucou Stéphane. Nagui, comme vous le savez, je kiffe tout ce qui est sémantique, phonétique, stylistique, linguistique, lexicologique, étymologique, onomastique, philologique, phonétique, phonologique. Et donc moi, dans le nom,
oui.
François est une figure de rhétorique, à savoir une épanalepse, ou pour parler plus simplement aux membres complètement analphabètes de cette bande d'originaux, une répétition synthétique qui me désigne comme l'incarnation de tous les François chanteurs. François Valéry, Frédéric François, Claude François, Jean-Pierre François, François Feynman, François De Gaulle, François Hardy.
Ouais.
Donc moi, cher Stéphane, j'ai vraiment adoré ton livre. Et à ma grande surprise, je ne suis pas le seul ici. Quand j'ai demandé à Daniel Morin s'il l'avait lu, il m'a répondu, je le cite... Une ou deux phrases par page, voire trois ou quatre mots seulement, qui sont écrits très gros, avec des dessins. Il s'est pas fait yèche, le De Groot. Mais grâce à lui, c'est la première fois de ma vie que j'arrive presque à lire les cinq premières pages d'un bouquin.
Eh ouais.
Quant à moi, je reviens au sérieux. Si j'ai kiffé ton bouquin, Stéphane, c'est parce que je vois avec plaisir que, contrairement à Alexis le Rossignol, tu préfères l'homophonie à l'homophobie. Parce que tu aimes les mots valises, les oxymores, les antithèses. On l'a dit tout à l'heure, je gagne aux échecs et je aux réussites, chercher l'erreur, ça c'est tapé. Parce que tu manies aussi le paradoxe, comme celui-ci, qu'on pourrait croire signé Nagui. J'espère que quand je serai grand, je serai tout petit. Waouh, ça c'est de l'analyse littéraire. De très haute volée, j'en reviens pas de mon talent. Ça m'électrise le string. Autre chose, me disait d'ailleurs Leïla, je la cite elle aussi. Elle m'a dit autre chose que dans le boomerang de Trapenard. Boomerang qui ferait bien de lui revenir en pleine tronche pour qu'enfin il la ferme. C'est violent. C'est saignant. Oui, elle me l'a dit tout à l'heure en aparté. C'est saignant. Mais ça aussi, c'est la bande originale. Alors bon courage et bonne émission.
Merci, Albert.
La bande originale. Nagui.
Tu peux rien pour attendre, toi, je te le dis.
Combien de temps ça prend ? Est-ce que vous l'avez fait comme un travail, comment dirais-je, en vous mettant à un bureau ? Ou est-ce que c'est, vous avez un petit carnet où vous notez sur votre smartphone quelques pensées, quelques idées ?
Je note tout le temps, et puis dès que je suis parti, effectivement, par thématique, où je me dis, tiens, j'ai envie de parler de choses précises, j'ai envie de rendre hommage à certaines personnes, j'ai envie de... Après, je me mettais en disposition par rapport à ça. Là, maintenant, maintenant que le bouquin est terminé, j'ai fermé la porte, donc ça ne vient plus.
Ah et oui. Et la disposition, c'est assis à un bureau ou non, c'est dans un canapé, dans un hamac
Non, c'est d'être attentif, de me mettre en situation de
en éveil.
D'inspiration. D'accord. Voilà, on n'a pas d'inspiration.
Mais de réception, mais... oui, pour ce que
exactement.
Le chapitre est ouvert.
Sylvain ouais. Tesson, vous dites à tous les Sylvains que je ne connais pas, à tous les Tessons que je ne connais pas, à tous les Sylvains Tessons que je ne connais pas, mais qui se reconnaîtront pour leur talent d'écriture. Là, on est dans la partie dédicace en ouverture du livre. Qu'est-ce que vous admirez chez lui ?
Sa poésie.
Ses aphorismes aussi.
Il a fait un recueil d'aphorismes il y a quelques années. Mmh. Ça, il me fait penser, sur certains aspects, à Brel, l'idée de partir pour la quête.
Il a besoin de marcher.
Il a besoin d'être en mouvement.
Il fait partie de ces promeneurs, ces auteurs promeneurs. Et vous?
Moi, j'ai besoin de marcher aussi. J'ai besoin d'être en mouvement tout le temps. Moi, c'est comme un vélo. Si je pédale pas, je tombe. Et Sylvain, je pense que c'est un peu ça. Mais moi, ce qui m'a vraiment fasciné dans sa plume, c'est d'abord sa pertinence dans la description des choses, d'une manière très philosophique, mais d'une poésie rare. Et en très peu de phrases, il vous emmène quelque part. C'est un aventurier des mots. À tous les niveaux. C'est un aventurier avec un A, un petit A, un grand A.
Vous êtes déjà rencontré, salué, serré la main,
discuté?
Non, jamais.
J'en parle tout le temps.
Il paraît qu'il veut pas.
Il est toujours en voyage.
En fait, ils sont jamais sur les mêmes chemins. Ils marchent, mais pas sur les mêmes chemins. Le droit de réponse d'Alexis Le Rossignol, c'est maintenant.
Ouais. Bonjour, messieurs, dames.
Salut. Salut, Alexis.
Ouais, super, comme d'hab.
comme un vendredi.
Oui. On est repassé deuxième derrière Stéphane Bern.
Ouais.
Bon, en même temps, est-ce qu'il vaut pas mieux être derrière que...
Donc il avait raison.
Allez, hier j'ai fait de l'administratif.
C'est débrouillé avec ça, franchement. Moi, je me décide.
Attends, je fais des jeudis administratifs. Il y a 4 pages, alors si vous l'écoutez, c'est maintenant. En général, c'est quand je vais trop bien que je fais de l'administratif. Je me dis, Alex, fais gaffe, tu vas prendre un retour de bâton, c'est le moment. Ouvre les enveloppes avec écrit finances publiques dessus. Sauf que là, j'en avais pas. Et je me suis rendu compte que la non-réception des enveloppes des impôts me traumatise autant que leur réception. J'ai appelé un pote pour lui demander s'il avait déjà son avis d'imposition 2019 et il m'a dit oui. Et moi, je l'avais pas. Donc, je me suis dit, c'est pas normal. Même si j'ai pas un salaire mirobolant ici, il n'y a pas de raison que les impôts s'imposent à mon pote et pas à moi. Allitération au passage, vous avez vu. Il n'y a pas de raison que les impôts s'imposent à mon pote et pas à moi. C'est une allitération.
Bravo.
Bon, je le dis parce que c'est plutôt rare, quoi, gars. Non, mais il y a plein de gens qui passent une vie entière sur Terre sans allitérer une seule fois, tu vois. Bref, je vais sur impots.gouv.fr. Sauf que là, classique, j'ai mon numéro fiscal, mais j'ai plus mon mot de passe. Donc, je tente des trucs logiques auxquels j'aurais pu penser le jour où je l'ai défini. À savoir, trop d'impôts, impôts de merde, Balkany, dis-moi oui. Non?
Ah, comme mot de passe.
Eh oui. D'accord. Mais ça marche pas, alors que d'habitude, ça marche. Par exemple, mon mot de passe sur le site de l'URSSAF, c'est URSSAF fait chier. Tu vois?
Alors, et c'est comme ça que tu vas changer la société?
Oui.
Il n'y a pas de petit combat.
Vous êtes avec moi en tout cas, ça fait plaisir. Deux, j'appelle. Il était 15. Oh, il y a un monsieur, il rigole bien. Il était 15h30, à 16h, il n'y a plus personne là-bas. Fallait que je me dépêche. Vous avez déjà tenté d'appeler les impôts, vous?
Non. Oui.
La boîte vocale des impôts, c'est fait pour que tu craques, en fait. C'est pas possible, écoutez.
Bonjour. Après le bip sonore, le service vous sera facturé 6 centimes d'euros par minute, plus le prix normal de l'appel.
Alors, ça te met pas vraiment
en
joie, parce que c'est payant. Ah ouais. On paye pour solliciter des infos pour payer nos impôts. Mais c'est un scandale, en fait. Est-ce que quand tu vas à une boulangerie, tu payes pour rentrer avant d'acheter ton pain? Non, en fait.
Non, mais
c'est pas tout, vous allez voir. Après le bip sonore qui indique que tu commences à payer, c'est plus la même dame qui parle. Ils l'ont remplacée par une dame qui parle moins vite.
Afin d'améliorer notre accueil téléphonique, nous vous informons que cette conversation est susceptible d'être écoutée ou enregistrée.
Et là, ça tourne.
Vous pouvez demander à accéder à cet enregistrement et en demander sa suppression.
Alors vous avez vu, à mon avis, le jour où ils ont fait la bande son, il y avait Gérald Darmanin en face d'elle qui lui disait doucement, le temps c'est de l'argent, voilà. C'est comme ça qu'il va redresser les finances de la France, Darmanin, avec une dame qui parle lentement. Mais attendez, il y a mieux encore. Après la dame qui parle lentement, elle donne des conseils pour un appel de qualité.
Pour garantir une qualité optimale de la conversation téléphonique, nous vous invitons à éviter les appels depuis les transports en commun ou votre véhicule, à couper le haut-parleur et à ne pas manipuler votre clavier de téléphone.
Là, tu payes.
C'est fou.
Du vol.
Ça dure 15 secondes. À 6 centimes la minute, ça fait 1,5 centimes d'euros, 10 centimes de francs. Hein. Parti en fumée, la part des anges des impôts.
Mais toute minute entamée est due.
En plus. Bah oui. Et toi, tu dois tout écouter parce qu'il n'y a pas une touche, rien à foutre de tes conseils. Je suis chez moi tout seul, tu vois. Non, mais sérieusement, si c'est pas pour nous piquer notre oseille, ces 15 secondes de conseils, moi je suis le pape, tu vois. Qui va avoir l'idée d'appeler les impôts dans un bus ou dans le métro? Quand t'appelles les impôts, t'es chez toi, volet fermé. Moi, je débranche le frigo quand j'appelle les impôts parce qu'ils sont à l'affût. Dites-moi, c'est pas un frigo américain qu'on entend derrière vous? Si. Et vous l'avez acheté où, ce frigo? Hein? Allez, contrôle fiscal du frigo et de l'intérieur. Yaourt à boire, Michel et Augustin, on se refuse à rien, dis donc. Voilà. Bah, j'ai cru que c'était fini.
Bah, moi aussi, ouais.
Il reste 2 pages.
Non, t'as dit 4 pages en tout. Et tu suis là. Il se souvient plus de sa chute.
Michel Augustin, on était.
Ouais. Et vous savez où il va l'argent collecté grâce aux numéros surtaxés? Dans les poches de Macron, bien sûr, il reçoit des petits virements. Monsieur Le Rossignol, 36 centimes. Monsieur Morin, 48 centimes. Monsieur Nagui, alors on n'a pas de Monsieur Nagui en France, domiciliation fiscale non répertoriée.
C'est
fou. Parmi les boîtes vocales qui ronfouillent, il y a celle de Pôle emploi aussi, que j'appelle souvent, parce que, si vous voulez, Pôle emploi complète mes cachets, pour que je puisse vivre décemment.
C'est normal.
Par rapport à ce que je gagne ici, quoi. Alors, la spécialité de Pôle emploi, c'est les propositions multiples, mais qui se ressemblent toutes entre elles. Pôle emploi, bonjour. Pour modifier votre situation professionnelle, tapez 1. Pour obtenir des justificatifs, il faut modifier des informations de votre dossier, tapez 2. Alors toi t'es là, 2, je retiens 2. Si vous avez besoin d'assistance pour vous inscrire ou votre premier rendez-vous, tapez 3. Ah, 3 c'est pas mal. Si vous souhaitez obtenir des informations ou des conseils sur votre situation, tapez 4. Ah, 4 c'est bien aussi. La 2 ou la 4? 2, 4, je retiens. Vous souhaitez être mis en relation avec un conseiller, composez le 5. Bah oui, évidemment, vous pouvez pas le dire avant. Est-ce qu'il y a sérieusement des gens qui appellent pour écouter des bandes sonores?
Nos agents sont en communication actuellement. Merci de nous recontacter.
Et ça finit sur ça. À chaque fois. Voilà. C'est quand même fou qu'il n'y ait jamais de conseiller disponible chez Pôle emploi. Ça veut dire que Pôle emploi manque d'effectifs. Pôle emploi, s'il y a bien un organisme qui ne devrait pas manquer de personnel, c'est Pôle emploi, non? En tout cas, j'ai passé un bon jeudi de merde à faire de l'administratif. Quand je pense qu'il y a des gens qui sont responsables administratifs et qui font ça tous les jours, volontairement, c'est des héros, ces gens-là. En tant que moi, j'ai encore pas résolu mon problème. Allez, bonne journée à tous et surtout
ça y est,
qui parle lentement.
Ah, ça y est, ok.
Ouh, la bande originale.
Et on retrouve Alexis Le Rossignol, il faut le dire, au point virgule, le jeudi, le vendredi,
engagé,
le samedi à 19h.
Stéphane De Grand, t'as beaucoup ri.
Oui, c'est décalé. Mais peut-être qu'il a ri aux vannes de François d'il y a un quart d'heure, on ne sait pas très bien.
C'était très drôle.
La musique dans la vie de Stéphane De Grand. Stéphane, vous écoutiez dans les années 60, fin années 60. Narrow streets of cobblestone. En fait, ça veut dire, est-ce que c'est la musique qu'il y avait à la maison? C'est la musique qu'écoutait votre papa, votre maman?
Oui, c'est une musique qu'il y avait à la maison, et puis je l'ai découvert par leur concert à Central Park.
Qui avait été diffusé à la télé dans Les Enfants du Rock.
Voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert Paul Garfunkel.
Mais je suis d'accord, c'est émouvant. Moi aussi, le concert de Central Park en direct sur la 2 à l'époque, c'était.
Qu'est-ce qui se passe, rire,
c'est Simon et Garfunkel.
Oui, c'est ça, parce que je viens de dire Paul et Garfunkel qui ne veut rien dire. Pendant que vous parliez, Nagui, j'écoutais pas tout le temps. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que j'ai raconté là?
On s'écoute pas aujourd'hui.
Personne ne t'écoute.
C'est Paul et Virginie et Simon et Garfunkel.
Et Simon Garfunkel.
Il est bien connu.
J'ai fait un aphorisme, personne n'a remarqué.
Qu'il était-il?
J'ai souri.
Ah oui, c'est vrai.
J'ai souri. Oh bah, merci.
Tu souris tout le temps.
Je suis comme Stéphane, je ris pas.
Voilà.
Alexis Le Rossignol a dit, on ne s'écoute pas aujourd'hui. Moi, j'ai répondu, oui, mais on s'entend.
Ah, joli. Ouais, on applaudit Nagui.
Et en 66, Stéphane, c'est l'année de votre naissance. Vous êtes le petit dernier d'une fratrie de 3.
Oui.
Si vous deviez décrire le... Ouais, bah doucement. Et,
Oui.
Si vous deviez décrire l'environnement parental, familial.
Je vis dans un milieu confortable, bourgeois. Et donc j'ai la chance j'ai cette chance-là. Et puis on se rend compte que ça n'est pas tout et que je suis pas forcément pour autant un garçon très épanoui.
Ouais.
Et,
Un peu solitaire, je crois.
Oui, tout à fait solitaire, et que je veux sortir de ça et créer mon propre univers et ne pas m'enfoncer dans celui-là particulièrement.
Comment naît le sens de l'humour ? Est-ce que c'est les vannes de vos frères ? C'est votre père qui avait le sens de l'humour ? C'est des BD qui traînent à la maison ? Comment naît l'idée de se dire...
Je pense que ça naît d'une faille, d'un problème. Moi, l'humour, je ne suis pas certain. Quand j'étais petit, je n'étais pas forcément très drôle. J'ai voulu être drôle.
C'était pas ça ma question.
Il est désagréable, je suis d'accord.
Non,
c'est vrai qu'on s'en
c'est pas ça la question. C'est pas à quel moment vous êtes mis à faire de l'humour. C'est à quel moment vous avez reçu l'humour comme étant une
solution. J'ai pas été au bout de ma phrase, vous auriez eu la réponse.
C'est pas gentil.
Non, mais c'est parce que c'est ça. C'est quand j'ai vu Louis de Funès à la télévision, je me suis dit, tiens, en faisant rire les gens, a priori, apparemment, on se fait aimer des gens. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai envie de trouver la manière de me faire aimer des gens en faisant rire. Et donc, j'ai observé, j'ai regardé, je me suis imprégné de Funès, parce que c'est lui que je regardais beaucoup quand j'étais petit.
Parce que de Funès faisait rire votre papa et que vous aviez, vous aussi, envie de faire rire votre papa ?
Non, parce qu'il faisait rire mes copains à l'école.
Ah, d'accord.
Parce que le lundi matin, on parlait tous de Funès qui avait été difficile dimanche soir. Et moi, j'étais là dans mon coin, tout le monde se marrait en parlant de Funès, personne ne parlait de moi. Je me suis dit, alors je vais devenir Louis de Funès.
Et vous définissez l'humour de Funès comme étant un humour de situation ou parce qu'il n'était pas dans le jeu de mots, lui, par exemple.
Non, mais il se moquait de lui-même. Oui. En fait, à force de bouger, de brasser beaucoup d'air, j'ai l'impression quand même qu'il se moquait d'une certaine...
Il mimait ce qu'il disait, en fait, c'est dans son mode de fonctionnement, j'ai l'impression.
Oui, et puis il ne se mettait pas en valeur, c'est-à-dire c'était l'autodérision passait déjà... pas forcément très évidemment, mais ça passait par là. Et de Funès a sorti au Monty Python, je me suis dit, tiens, voilà, les deux univers me plaisent. Les Monty Python qui se foutent bien de leur propre gueule.
Grave.
Et de Funès aussi.
C'est un humour très, évidemment, très anglais, mais enfin, c'est l'absurde, là, les Monty Python.
Oui, mais de Funès, quelque part, il avait un côté très absurde. Quand il fait sa tirade du nez, c'est complètement absurde, c'est n'importe quoi, personne ne fait ça. Et donc, voilà, ça m'a nourri. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de faire rire, sans avoir forcément les éléments intrinsèques au départ. C'est pour ça que je suis pas humoriste. Les humoristes, je pense qu'ils sont nés pour faire rire. Moi, j'étais pas né pour faire rire.
En 1984, vous écoutiez... Alphaville, cette musique vous renvoie à quelle période de votre vie ?
84, c'était l'époque où je roulais en voiture, c'est ça ?
Ouais. Mais quel rapport avec cette musique ?
C'est l'année où vous avez roulé en voiture.
Non, j'ai fait ça pendant 15 ans, mais ça, c'est Alphaville, c'est la New Wave, c'est ça ?
Oui.
Je trouvais que, enfin, Duran, il y avait des groupes, Dépêche Mode.
Spendo Ballet, compagnie, ouais, voilà. Bien sûr.
Et d'ailleurs, quand vous m'avez demandé de choisir un morceau, c'était très compliqué parce que j'avais envie de vous balancer
toute une
22 heures de musique.
Parce que la musique est présente dans votre vie ? Vous écoutez
tout le temps
de musique ?
Tout le temps, dans ma voiture, chez moi, je me réveille en musique, j'écoute de la musique. Là, par exemple, vous voyez pas, mais j'ai des écouteurs, j'écoute de la musique.
Et en 84, vous l'avez évoqué, vous commencez à piloter, à prendre des cours de pilotage. Vous avez quitté le lycée, l'école, oui, c'était pas forcément voilà le lieu d'épanouissement.
Quand je dis quitter, c'est-à-dire que j'ai jamais vraiment été au lycée, oui.
Ouais, et on vous a aussi souvent fait quitter le lycée.
Oui.
Il y a quelques renvois, on va dire, dans le parcours.
Absolument, oui, ce n'est qu'un renvoi, tout ça n'est qu'un renvoi,
et
pardon.
Et pour financer vos cours de pilotage, en fait, ce qu'on sait moins, on sait que vous avez piloté, c'est que vous avez financé ça en cuisinant.
Oui, je faisais des raviolis, je faisais des pâtes à la maison. La première fois, c'était pour la maison, pour ma mère, pour ma famille. Et puis j'ai un copain qui avait un restaurant, donc le lendemain, je lui ai dit, tiens, goûte mes pâtes. Et du coup, il a acheté quelques portions. Du coup, je faisais des pâtes pour lui, ça marchait bien. Donc j'en livrais à plusieurs restaurants. Mais à ce moment-là, j'étais dans une école pour essayer d'avoir mon brevet, alors que j'avais déjà 36 ans. Et pour faire des pâtes, il faut de la farine. Donc j'arrivais de plus en plus tard au cours pour le brevet. Et le prof pensait vraiment que je faisais du commerce de coke, quoi, du trafic de coke, alors que je faisais du trafic de ravioli. Je sniffais mes raviolis. Et donc à un moment donné, il m'a dit, soit tu continues à étudier, soit tu fais tes raviolis, mais les deux, c'est pas possible.
Soit je te balance à la police.
Et donc j'ai continué les raviolis.
En 2000, vous écoutiez... Too much life running through my veins, going to waste. Robbie Williams, passionné aussi de course automobile, ouais. D'ailleurs, ce chanteur. Dans la musique, vous cherchez, en écoutant par exemple Phil, c'est un moment d'évasion, vous aimez danser, quelle joie vous procure la musique ?
J'ai écrit deux courts-métrages, j'ai écrit un long là, et c'est la musique qui m'emporte dans l'écriture. C'est-à-dire que la musique est une écriture.
C'est la bande originale du film qui vous donne une direction.
Le cinéma, c'est 50% de musique. Et pour moi, la vie, c'est ça aussi. C'est que ça me transporte tout de suite quelque part dans un univers. On passe cette musique-ci, dans la seconde même, je suis quelque part. Voilà.
Il y a des films sans aucune musique. On en avait d'ailleurs parlé, on avait parlé ici d'un film où il y avait
sans bande son,
zéro musique, mais c'était un choix du réalisateur.
Oui, ça prouve bien.
Céline Sciamma.
La jeune fille.
C'est ça, en feu. Ouais, Céline Sciamma, ça m'est revenu. Ouais.
Oui, il y a raté beaucoup, d'ailleurs, pour le coup.
L'écriture, c'est de la musique. Le cinéma, c'est de la musique. Ce sont des histoires. Et d'ailleurs, quand j'écris, je me sens plus proche de gens comme, sans aucune prétention, évidemment, mais la mécanique des mots, c'est plus Gainsbourg, Bachung, c'est plus ça que Raymond DeVos, en fait, finalement. Parce que moi, je suis pas un clown, je peux pas... dans le sens noble du terme, DeVos, il allait sur scène, il pouvait faire des jongler, il pouvait mettre un nez rouge, il jouait de la trompette, ce que je suis incapable de faire. Enfin, la trompette, quoique...
On vous a déjà demandé d'écrire des paroles de chansons ?
Oui, je me suis essayé à ça, je le ferai peut-être un jour, j'aime bien l'idée.
Comment t'as pas à l'idée, avec un autre chanteur.
Oh, joli.
Oh, foi.
Je crois que je vais partir.
Allez, on est en 2000, j'enchaîne.
Ouais, vas-y, enchaîne, s'il te plaît.
Et on vous retrouve en 2000.
Ah ouais,
c'est un malade mental.
Stéphane, on vous retrouve à la RTBF en 2000, dans l'émission Les Allumés. Ouais, c'est pourquoi le...
Non, parce que c'était une autre vie, ça.
Ouais, oui. C'est-à-dire une autre vie.
Mais c'est-à-dire que c'était plus pour faire de la télé que pour faire quelque chose.
Ouais, parce qu'en fait, je crois que c'était compliqué. Vous écriviez des papiers, des chroniques. Les producteurs comprenaient pas nécessairement tout et coupaient. Et ce qui donnait un résultat. Un résultat.
C'est-à-dire que tout ce qui était absurde, ils pensaient que c'était une erreur. Et ils remettaient tout dans un ordre pour que ça soit du premier degré compréhensible de partout le monde.
Mais quelle horreur!
Se faire corriger ses vannes.
Ouais. Wow.
Donc c'est la souffrance, ça.
Mais la souffrance absolue, parce que ça veut dire c'est vous nier, c'est nier ce que vous êtes.
Ouais, c'est carrément insultant.
Et j'ai eu ça il y a pas très longtemps pour une interview qui s'était faite par écrit. Donc j'avais reçu les questions par écrit, j'ai répondu à ma manière, et la journaliste a corrigé. Et a refait des questions, enfin des réponses premier degré.
Ça devrait être interdit, ça.
C'est interdit.
Ouais, enfin, mais non, la preuve, elle l'a fait, mais c'est
ça m'est arrivé.
Moralement, c'est honteux, quoi.
Ça a duré des années, ça. On me renvoie mes papiers en pleine poire et...
Vous voulez qu'on arrête d'en parler?
Et puis, mais j'ai pas changé d'écriture, je suis resté là-dedans, mais c'est pour ça aussi que pendant des années, ça n'a pas marché. Mmh. Et puis un jour, ça marche pour ça. Donc c'est très gratifiant. C'est pour ça que je suis très content aujourd'hui de...
D'avoir renoncé.
Que ça puisse fonctionner. Pour ce que je suis fondamentalement. Mais du coup, ça a démarré tard.
Mais d'ailleurs, un livre comme ça, c'est typiquement le genre d'objet que vous pouvez pas sortir en premier livre.
On est bien d'accord.
Ouais, tout à fait. Livre de mots, c'est aux éditions de l'Observatoire. Stéphane de Groot, et nous allons parler du plaisir des mots avec Bertrand Perrier. Bonjour Bertrand, merci de venir à ce micro. Vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Vous enseignez l'art oratoire, les joutes verbales avec à Sciences Po, à HEC. Vous avez participé à Voix Haute. Vous êtes déjà venu et merci dans cette émission. Parler d'Eloquentia, si ma mémoire est bonne, ce fameux programme qui désigne chaque année le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Le plaisir du mot, le plaisir du mot juste. Est-ce que finalement tout part quand même de l'intelligence et de la connaissance du mot et de son sens et de son étymologie? C'est un travail qui n'est pas ou un moyen de jouer avec les mots qui n'est pas donné à tout le monde?
Ah si, c'est donné à tout le monde, il suffit d'avoir un dictionnaire en réalité. Oui. Donc et moi j'adore le dictionnaire des synonymes, les dictionnaires de champs lexicaux et les dictionnaires évidemment d'étymologie qui permettent de mieux connaître les origines des mots. C'est vrai que c'est toujours agaçant quand on trouve pas le mot juste, qu'on l'a, je dis, sur le bout de la langue. C'est pour ça que je l'ai intitulé comme ça, parce que moi ça m'agace toujours. Je sais qu'il y a un mot, il existe et je ne le trouve pas.
C'est comme quand on joue au Scrabble et qu'on a les 7 lettres et on se dit que
il y a forcément un bon mot pour dire, par exemple, on parlait de celui qui ne rit jamais, on dit agélast. Bon, ben voilà. Et je sais qu'il y a ce mot quelque part. Il existe entre ciel et terre.
Gendas, c'est agélast.
Agélast. Ouais, qui ne rit jamais.
Ah oui, agélast.
Qui ne rit jamais.
Moi, je l'avais sur le bout de la langue, c'est le titre de votre bouquin, justement.
C'est le grec, du a privatif, et gélast qui veut dire rire.
Sur D'accord. le bout de la langue, c'est votre livre chez...
Agélas. Parce que j'en connais beaucoup.
mais ça peut être une souffrance quand même de chercher le mot.
Non, c'est pas une souffrance, c'est un agacement parce qu'on sait qu'il existe et quand on le trouve, c'est un vrai bonheur.
Mais si, c'est une souffrance parce que quand on est limité en termes de vocabulaire et on peut donc pas exprimer toute la nuance de sa pensée ou de son ressenti, ça fait quand même une vraie différence dans la vie.
En réalité, c'est plutôt une frustration qu'une souffrance.
Après, il faut avoir conscience qu'il y a d'autres mots qui existent et qu'on n'a pas forcément le bon, donc c'est encore une autre problématique.
Bien sûr, mais je crois, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre où il y a des jeux pour accroître son vocabulaire.
C'est un QCM, chaque fois vous dites, maintenant à vous de jouer, vous posez des questions avec quatre réponses. Quoi.
Exactement, ou d'autres jeux pour accroître son lexique, parce qu'en effet, plus on a de mots à sa disposition, plus on peut exprimer une pensée précise, rigoureuse, et ça permet de débattre mieux. Vous rendez compte que dans la langue française, à peu près, on estime qu'il y a 60 000 mots, et on n'en utilise même pas 10% au quotidien. Donc il faut aller un peu chercher au-delà, mais parfois par paresse, on les a ces mots-là, on les connaît, mais on a des mots dont on a l'habitude, et on s'arrête un peu aux mots quotidiens.
Oui, on va utiliser un peu plus Agelas désormais, parce que...
Je crois pas, vraiment. Je vois mal le glisser dans une conversation. On parle des jeux de mots avec Stéphane De Groot. Vous mettez des jeux pour nous faire découvrir des mots. Est-ce que le ludique est une forme d'enseignement, vous qui êtes prof? On apprend mieux, on retient mieux grâce à l'amusement, au jeu?
Moi, je n'enseigne que par le jeu. Honnêtement, la question de la prise de parole en public que j'enseigne, c'est d'abord une histoire de confiance en soi, d'image de soi, et ça ne peut s'enseigner qu'avec une bienveillance et de l'humour. On n'obtient pas une conviction en tapant sur les gens. Donc, je crois que vraiment, le jeu est la base de l'enseignement, pas des mathématiques ou de l'histoire, mais pour la prise de parole...
Je suis pas d'accord.
Ah, si, peut-être aussi.
Je me souviens d'un prof de maths qui faisait qui racontait des histoires qui nous faisaient rire avec des formules de mathématiques... Et je les ai encore en tête. Non, mais je les ai retenus. Parce qu'il y avait un sketch, autour.
Bien sûr, mais
c'est de la séduction. C'est la séduction.
C'est la blague du théorème de Thalès.
Non, c'était pas celle-là, mais tu.
Non, mais c'est vrai que l'enseignement du vocabulaire, c'est aussi un émerveillement où on écoute les autres, parce qu'il n'y a que comme ça. Il y a en lisant les autres ou en écoutant les autres qu'on accroît son vocabulaire. Et moi, je crois beaucoup à l'admiration.
Alors, justement, l'écrit et l'oral, on ne fait pas les mêmes jeux de mots. Où on n'emploie pas les mêmes mots à l'écrit et à l'oral ?
Non, on le voit bien avec le livre de Stéphane qui est vraiment dans l'oscillation en permanence entre le son et le sens des mots. Donc c'est vraiment quelque chose qui est écrit. Et l'oral, c'est un peu différent. Il y a aussi des assonances, des allitérations, des jeux d'homophonie. Mais c'est vrai qu'à l'écrit, d'abord, la grande différence, c'est qu'à l'écrit, on peut raturer et refaire. À l'oral, une fois que c'est fait, on ne peut pas rembobiner. Un orateur, il n'a pas de seconde chance. Alors qu'un écrivain, il peut avoir une gomme. Donc, il y a déjà une différence là. L'écrit, il est nécessairement parfait puisqu'il a été validé et réfléchi et éventuellement refait. Alors que pour l'orateur, si c'est pas bon, c'est pas bon.
Mais ça devient presque un genre. C'est-à-dire que s'il rature à l'oral, de recommencer, ça devient aussi un exercice à part entière qui peut être drôle.
Qui peut être drôle, mais il faut quand même ses limites.
Il faut l'assumer.
Ouais.
C'est le choix entre l'orateur et la rature.
Exactement.
Joli, Nagui.
Le bafouillage, ça peut être très drôle. Pierre Rep, qui était un bafouilleur génial.
Absolument.
Absolument.
Quel talent. Quel talent. Est-ce que le jeu de mots à l'oral a plus de mal à passer parce que on se dit il y a eu une blague, on en rit et on en perd le sens et on a juste vu qu'il y avait un jeu de mots?
Non, pas nécessairement. Après, il faut qu'il soit explicite. Le pire, c'est la blague qu'on a besoin d'expliciter soi-même. La blague avec la note en bas de page, ça, c'est terrible.
On connaît ça ici.
C'est vrai que c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Vous avez de très bonnes questions posées par Nagui. Vous avez de la chance. C'est des super questions auxquelles
on est malheureux non plus.
Mais quelle enflure.
C'est gratuit.
Non, c'est un métier. C'est un métier.
Mais Agelas, moi je reviens sur Agelas. On peut pas faire un truc avec Agelas. Inverser, ça fait galoche ou ça fait. On peut faire quoi avec Agelas?
Il n'y a pas de O, il n'y a pas de C, il n'y a pas de H, mais bon, sinon.
Si tu l'as noté, si tu veux.
L'autre, il fait son Scrabble dans son coin et enfin, non.
C'est un 8 lettres. Ah ben, oui, on peut faire un Scrabble avec ça.
Ouais. Moi, j'ai un jeu de ce point de vue-là. C'est que quand vous apprenez un mot nouveau comme Agelas aujourd'hui,
on en fait quoi?
Faut le placer.
Eh bien, en fait, le but, c'est de le replacer deux fois dans la conversation le lendemain. Ouais. Et une fois que vous l'avez replacé deux fois dans la conversation le lendemain, ce qui n'est pas évident, je vous l'accorde, mais il est définitivement acquis.
Mais là, on l'a replacé trois fois depuis.
Tout le monde sait. On l'a pas replacé. On l'a évoqué en disant. C'est un mot bizarre, machin. Mais on n'a pas construit de phrase ou donné un sens précis avec ce mot.
Il faut le faire dans la journée.
J'attends. Suspect. Non, dans l'émission.
Ah, dans l'émission.
Il reste une demi-heure pour y arriver. Comment définir le type d'orateur qu'est Stéphane De Groot?
Bon, c'est un orateur de l'absurde, un orateur du jeu de mots, un orateur, c'est l'obsédé textuel, hein, on est vraiment dans...
Roland Bacry, l'expression obsédé textuel.
Oui, mais c'est...
Chroniqueur du Canard Enchaîné, faut lui rendre hommage.
En lisant les aphorismes de Stéphane de Groot, j'ai vraiment retrouvé ça, un goût du mot à la fois dans son sens, avec les doubles sens, les triples sens, et puis dans sa forme, dans son orthographe, je trouve que c'est très joli, et c'est très onirique aussi. Il y a à la fois quelque chose du rêve, et de la sagesse. Il y a quelque chose d'une sagesse presque populaire, et puis quelque chose du rêve qui nous embarque avec les mots. C'est ça aussi le miracle des mots, c'est qu'ils disent encore plus que ce qu'on pense.
Est-ce que des avocats, puisque vous en êtes, se servent de jeux de mots où ça ne c'est pas le lieu, c'est pas en cassation qu'un avocat va dans
mais
une
pédoirie. Mais se sert de mon livre, surtout. Non, honnêtement, l'humour à la barre, c'est quand même très risqué. On n'est pas à l'audience pour servir ses propres intérêts, on a la charge des intérêts d'un autre qui vous les confie, et honnêtement c'est pas un one man show, donc non.
On a l'impression quand même par moment que certains...
Vous connaissez Dupond
Moretti ? Non, mais Eric il fait pas du one man show, il défend ses clients. Alors après il y a le Eric de l'audience, il peut y avoir le Eric
des
médias, du théâtre.
On peut dire que dans les médias il est plutôt agélaste.
Oui, non mais franchement
Une, voilà. Allez hop,
okay. Vous l'avez définitivement. Non, honnêtement moi je fais pas d'humour à la barre, je trouve que c'est trop risqué. Je l'ai fait à mes dépens.
J'ai vu une plaidoirie de Maître Kejman, et sincèrement, il y avait 2-3 fourches codines qu'il avait empruntées pour faire rire.
Non, mais si vous avez un bon mot qui vous vient sur l'instant, la répartie miraculeuse.
C'était pas ça, c'était un bon mot pour dénigrer la partie adverse, en fait. Et c'est comme ça qu'il faisait sa plaidoirie.
Non, mais bien sûr.
En se moquant un tout petit peu de ce que.
Maître Kejman est vraiment un immense avocat et il peut avoir.
Malheureusement, il est très, très avancé en âge, hélas.
Oui, là, il a eu quelques sorties.
Agélas.
Oui, voilà, il a placé
ses avancées en âge, hélas.
Ah, ok, d'accord. Non, je pensais aux sorties qu'il avait faites sur Pierre Desproges.
Ah oui, c'est vrai.
Récemment.
Oui,
qui était pas très.
Il faut prendre un peu de
recul. Je me fous de Agélas que je viens de passer.
Non, tu viens de passer. Non,
c'est pas vraiment placé.
Pardon.
Je regrette.
C'est pas dans son sens, en tout cas. Non, un jeu de mots, oui, avec Agélas.
Ça a été placé, ça a été placé.
Oui, c'est ça, pardon.
C'est Agélaste.
Mais le ste va venir plus tard.
Oui, d'accord, ok.
On peut plus parler comme on veut maintenant.
Non, bah non.
Alors, un petit mot sur Eloquentia quand même.
Ça marche super bien. Voilà. Il y a que Saint-Denis, puisque quand j'étais venu la première fois, on est fait avec Saint-Denis. Maintenant, ça s'est diffusé dans la France entière et même à l'étranger. Et...
Non, mais il y a eu une émission de télévision aussi. Enfin,
et puis il y a eu le grand oral. Voilà. Tout ça se développe énormément. D'une façon générale, l'oralité et l'éloquence se développent énormément. Vous savez qu'il va y avoir un grand oral au baccalauréat 2021. Ouais. Donc il va y avoir un rééquilibrage entre l'écrit et l'oral qui est vraiment salutaire. Et puis
Vous avez l'air ravi de l'annoncer,
oui,
ça.
Ouais. Non, mais c'est formidable.
C'est jouissif pour vous.
Et c'est enfin la consécration de l'équilibre entre l'écrit et l'oral. Dans la vie, l'écrit et l'oral sont d'égale importance.
Avant, l'oral n'était que pour le rattrapage, finalement.
C'est,
dans les
c'est bien le signe qu'on avait une mauvaise considération de l'oral. Et puis, c'était pas un vrai oral. En fait, on récitait un bout de cours. Ouais. C'était pas un oral de conviction. Donc, je suis effectivement ravi de cette réforme. Et puis, Eloquentia va très très bien. Et on reprend le 2 décembre, si vous voulez venir à la soirée de lancement. C'est à la fac de Saint-Denis, le 2 décembre à 19h.
Il paraît qu'on parle d'une comédie musicale aussi.
Pardon ?
Comédie musicale ?
Pourquoi ?
Pour vous ?
Non.
Pour Eloquentia, non ?
Non. Enfin, si vous me proposez quelque chose, on pourra regarder.
Avec grand plaisir, parlons-en.
Mais voilà. Okay, et donc, je reprends à enseigner. Et donc, voilà, ils bénéficieront aussi des jeux dans Sur le bout de la langue.
Mais pardon, quand vous disiez que c'est un jeu, vous enseignez par le jeu. Moi, quand je faisais mes chroniques sur Canal ou encore ce bouquin-ci, il y a toujours une démarche ludique. C'est pour ça que ça fonctionne, c'est parce que les gens ont envie de jouer avec moi quelque part.
Bien sûr, bien sûr. Et moi, je pense qu'on retient et qu'on apprend beaucoup plus avec le plaisir du jeu que avec les forceps dont vous parliez tout à l'heure et la violence de certains enseignants.
Que n'a-t-on pas appris en jouant au docteur?
Reste à savoir si l'ego est un jeu interdit.
Bertrand Perrier sur le bout de la langue, le plaisir du mot juste. Jean-Claude Lattès, titre de Jacques et Michel, mais là en l'occurrence c'est un titre de Bertrand Perrier. Tanguy Passureau, bonjour.
Bonjour.
Les boîtes de nuit ferment les unes après les autres, c'est vrai?
Oui, les boîtes c'était super, hein. C'était ces lieux où les filles pensaient qu'elles allaient passer la soirée à danser à tort, parce que les mecs pensaient qu'ils allaient finir la soirée à faire l'amour. L'avantage des boîtes, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'être un littéraire comme De Groot pour séduire, il suffisait de savoir dire un gin tonic, Dominique, et on était le roi du coin bar, Nagui.
On en parle après.
Ces années, mais
grave,
vous avez dansé
avec Dominique et avec Monique, oui, bien sûr. On en parle après.
Ça
La bande originale, merci de nous rejoindre avec les Académies.
Bonjour à tous.
Daniel Morin. Albert Algou.
Bonjour.
Alexis Le Rossignol.
Oui, bonjour.
Julie Bassureau. Frédéric Sigris. Et notre invité, Stéphane De Gaulle.
Bonjour.
Stéphane, avec ce livre, donc, livre de mots, un livre que vous avez écrit comme un devoir dans un jaillissement, vous disant j'ai X semaines ou deux mois pour le faire, ou alors ce sont des aphorismes que vous avez notés tout au long de votre vie et que vous avez réunis en un livre.
Alors, c'était pas du tout un devoir, au contraire, j'étais parti sur la notion de devoir avec un roman ou avec un recueil d'essais ou de nouvelles. Ici, c'était vraiment une partie de plaisir. Une partie de plaisir où je me suis livré à travers des petites phrases qui résument peut-être une pensée qui aurait pu se développer sur 3-4 pages. J'ai considéré vraiment ce travail comme le truffier, c'est-à-dire que chaque mot c'était pour moi quelque chose de comme une pépite que je voulais nourrir.
Est-ce qu'il y a des jeux de mots qui vous surprennent, c'est-à-dire que ou des aphorismes et vous y prenez un véritable plaisir, vous le trouvez et de l'écrire d'un coup vous le regardez et
mais qui me surprenait aussi, c'est-à-dire que j'étais surpris en permanence par la puissance des mots. C'est je me dis tiens, en permanence on peut être cueilli par l'association d'un mot avec un autre. Et de tout d'un coup de se dire tiens, il y a une pensée derrière, je vais rechercher encore la manière de
non, puis il y a du sens et des valeurs aussi humaines dans certains aphorismes. Je pense à force de chercher l'indispensable, je suis passé à côté de l'essentiel. C'est tellement bien, c'est-à-dire on est avec Full Sentimental Alain Souchon, quoi. On est dans cette espèce de dénonciation de la surconsommation ou de la vie qui va trop vite.
La quête de soi. Ouais.
Voilà, c'est ça, être passé à côté de véritables de choses essentielles.
Mais c'est plein de choses. Quand vous parlez de Souchon, ça peut être Souchon, ça peut être des auteurs plus classiques, ça peut être des poètes, ça peut être. En fait, c'est un condensé de tout ça. Je me rends compte que j'ai été bercé par tous ces gens et qu'en une fois, c'est ressorti à travers ce livre.
Mais j'imagine qu'il faut faire un tri aussi à un moment. On a parlé du thème de la mort qui est quand même assez présent dans le bouquin. C'est donner une couleur aussi à l'ensemble. Comment on opère ces choix-là?
Alors, quand mon éditrice m'a dit, il faut Muriel Beyer, je la cite souvent parce que c'est la première qui m'a fait confiance avec mes premiers livres. J'étais très surpris qu'une éditrice se penche sur mon écriture, mon berceau. En fait, c'est très particulier parce que j'en ai enlevé évidemment quelques-unes, mais par exemple, je les poste sur Instagram de temps en temps.
D'accord.
Et c'est comme, ce sont mes petits. Et je ne sais pas lequel choisir pour le mettre en avant, pour le retirer. Je les ai tellement nourris, je les ai tellement accompagnés, ces mots, que j'ai du mal à choisir, comme des enfants presque. Ils m'appartiennent, j'y tiens beaucoup. C'est un livre très très intime, très personnel.
Vous êtes durant en négociation d'ailleurs avec votre éditrice.
Oui, bien sûr.
C'est vrai.
Mais évidemment.
Comme tout auteur, vous l'avez plumé.
Comme tout auteur.
Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, tous ici, un jour, nous sommes allés en boîte de nuit, heureusement.
Oui, parce que nous sommes âgés. Hein. Albert Algou a même connu dans sa jeunesse les danses autour du feu au fond des grottes. La boîte de nuit, c'était génial. On fumait, on dansait. Et comme on fumait, le lendemain, on avait la voix de Garou. Même les filles, c'était le début de la question du genre. Il faisait chaud là-dedans, c'était moite. Une personne sur deux, c'était de l'humus. On avait la nuque longue trempée. On aurait dit que des castors excités faisaient l'amour à notre cou.
Ouais.
Donc on allait dans les toilettes se rafraîchir. Mais là, c'était horrible, encore plus que le CV de Faudel. Chez les filles, c'était coquet, mais chez les mecs c'était atroce. Il n'y en a pas un qui pissait dedans. Il fallait remonter le fleuve d'urine à la nage, tel des saumons qui auraient confondu leur rivière et un EHPAD pour arriver jusqu'au lavabo. Là vous tourniez le truc, l'eau était chaude. Oui, chaude, parce que les gérants voulaient qu'on consomme du Ginto, du Malibu Coco, du Bel Ess pour les esthètes.
Ah ouais.
Ces gens précieux qui ne dansaient que sur Don't Go de Yazoo parce qu'ils faisaient partie de la vague des néo-romantiques. Donc on buvait du JB avec du Coca. Et plus on buvait, moins on avait de retenue. Le DJ lançait un Claude Barzotti. On y allait quand même. La dignité, on l'a laissée au vestiaire avec son bon beurre. Et malgré ça, on roulait des pelles des années 80, d'avant Tinder. On savait que la personne n'avait pas de bouton next, qu'elle n'avait pas le choix. C'était soit nous, soit l'onanisme. Donc c'était pas des pelles, c'était des tractopelles. On foutait la langue entière au fond de la glotte, à la Haroun Taziev. Une fois, j'ai même ramené un bout de chou-fleur qui flottait en haut d'un colon. C'était en Bretagne, dans l'Aubrac, j'aurais remonté de la Ligo. Il faut pas se leurrer. Tous les gens nés à partir de 75 ont été conçus à 4 grammes. femme à l'arrière d'une boîte. Parce qu'on y allait pour ça, pas pour danser. Personne n'aime danser. À Danse avec les Stars, vous proposez à la star. Donc soit un youtubeur followé par sa sœur, soit un type qui a fait une apparition de 4 secondes dans le feuilleton d'Ingrid Chauvin. De danser ou de traîner en slip avec des chipsters, elle va choisir les chipsters. Mais depuis toujours, si on danse, c'est pour trouver sa moitié. Comme disent les bouchers bigleux qui ont confondu le jambon avec leur femme. À la cour de Louis XIV, vous ne dansiez pas le menuet en collant avec la perruque de Paul Naref et la canne de Gérard Collomb pour le fun. C'était pour pécho, comme on dit à TPMP, et faire des gosses. Parce qu'en plus, sur une douzaine, à passer le cap des 18 mois, ils étaient 3. Hein, à partir d'un seul enfant, les gens avaient la carte famille nombreuse. Bref, la boîte de nuit, ça a excité la France, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'accès au X. Hein, en 2019, vous tapez sur Google « Mamie ». Vous n'avez pas le temps d'écrire « Nova » qu'on vous dirige vers la partie MILF de Pornhub, alors que vous cherchez juste à connaître la composition des yaourts. Hein, mais en 86, bah, il n'y avait pas de X à volonté. Samantha Fox qui montrait un téton, c'était le maximum. Hein, les mecs se branchaient le mercredi sur la 3, les questions à l'Assemblée, et se caressaient en matant les jambes d'Elisabeth Guigou. Moi, Raymond Barre qui pionçait, il m'est arrivé de le trouver lascif. J'ai failli devenir centriste à cause de ma libido. Allez, expliquez ça à un psy, vous.
Bon, revenons aux boîtes de nuit. Alors, ouais. Aujourd'hui, qu'en est-il ?
Eh ben, Nagui, c'est terrible. L'Express, il consacre cette semaine une enquête, elle ferme. Exemple, en Haute-Savoie, le Macumba de Saint-Julien en Genevois.
Ah ouais,
ouverture 1977. 4 salles, capacité 2500 personnes. Son incroyable. Vous entendiez toutes les notes hautes de Patrick Juvet. Sur Où sont les femmes, on l'entend faire pfff au moment où ses cheveux sont entrés dans sa bouche. 82, le Macumba crée sa radio. 92, il fait 4500 mètres carrés, l'équivalent de 4500 logements à Paris. Hein, tout le monde va au Macumba, les jeunes, les vieux, les chiens et monsieur le curé. Puis en 2005, un incendie se déclare, pas de victimes, mais les murs sont aussi noirs que Jacques Séguéla. Et le concept de la discothèque ayant vécu, personne ne reprend. 40 ans de soirée mousse, ces soirées où on tripote les gens en faisant semblant d'attraper de la mousse qui s'en vont comme ça. Hein, pareil pour le Lagon Bleu à Neuilly-Mines, le Luxor à Clisson, la Clé des Champs à Montrevel, en Bresse, même le club Kalimba à Ifignac, près de Saint-Brieuc, où j'ai vécu tant de soirées infirmières, moins par souci d'avoir accès à des soins de qualité que pour une sombre légende de culotte sous la blouse. À fermer, Nagui. Depuis janvier là, 60 discothèques ont fermé en France. En 30 ans, on est passé de 4000 boîtes à 2000. C'est la fin des t-shirts mouillés, il n'y a plus que des t-shirts secs. Ce pays est devenu aussi triste que le corner Sandro aux Galeries Lafayette. Alors pourquoi les gens vont-ils plus en boîte ? Eh ben à cause d'Internet d'abord. En deux clics, ils se rencontrent. Et même si les photos de profil correspondent pas toujours à la réalité, hein, sur Mythique, on dirait Kylie Jenner, dans la réalité, Michel Sapin, eh ben en boîte non plus. Un mois dans le noir, ivre avec une lumière verte, en 90, je ressemblais plus ou moins à du slime. Alors certes, à l'époque, SOS Phantom 2 venait de sortir, donc avec ça, c'est suffisait pour emballer. Et puis le souci, c'est que les boîtes de campagne, il fallait prendre sa voiture pour y aller. Or, on teasait. Il y a des régions où sur 2000 personnes, il n'y avait pas un SAM, hein, celui qui ne conduit pas. Et les jeunes d'aujourd'hui préfèrent vivre que mourir à 7 dans une Renault d'occasion, parce qu'ils n'ont plus ce sens du collectif. C'est le règne de l'individualisme. Résultat, la boîte de nuit est devenue ringarde. D'autant que, depuis qu'on n'y fume plus, on sent les gens. Et ça, c'est pas possible. Mais non, ce partenaire potentiel si sublime quand il bouge du huc sur Dr Alban. Oui, ça va, ça fait longtemps que je suis pas allé en boîte.
Ouais,
mais quand on s'approche, on a l'impression de renifler les aisselles de l'âne trop. Donc, adieu Ginto, Maxi Single et Sueur, chacun chez soi, tout sec. Qu'est-ce que c'est triste.
Oh, merci.
Adieu ma France.
C'est un scandale.
Mais ouais, c'est un scandale.
Qu'est-ce qu'on va devenir ?
Alors déjà, moi, je trouvais scandaleux qu'ils aient supprimé les slows dans les discothèques. Ah, mais maintenant, ils ferment les boîtes et on va faire quoi ?
Les gens font des escape games.
Pardon ?
Les gens font des escape games.
Non, les gens vont continuer d'aller en boîte, pardon.
Livre de mots à l'Observatoire, c'est Stéphane De Groot qui signe ce livre. Stéphane, vous serez à partir du mois de janvier au théâtre.
Fin janvier, oui.
Également, excellent Yvan Calbera, j'adore cet auteur. Vous allez le jouer sur scène avec Isabelle Gélinas, Olivia Cotte, Sébastien Pierre et Nelly Clara.
Oui, au théâtre de la Renaissance,
en
2025.
Un amour de jeunesse, que, en quelques mots. C'est ça,
oui, c'est ça, si c'est la question. C'est un homme qui a réussi dans la vie, qui a fait fortune, et il ne se souvient plus que 20 ans auparavant, il a épousé une femme en Inde sous les effets de quelques herbes
ou champignons.
Opiacées,
ouais,
oui. Et elle revient dans sa vie 20 ans plus tard, et il découvre qu'elle pourrait tout lui prendre puisqu'ils sont toujours mariés. Donc il va lui faire croire qu'en fait il est très pauvre, et il va investir les lieux de sa femme de ménage.
Encore un mec bien, quoi.
Encore un mec bien, oui.
Et c'est de jouer sur le décalage entre celui qu'on était à 20 ans et celui qu'on est devenu.
Il y a de ça, il y a de
nouveau, moi, si j'ai accepté, c'est parce que il y a beaucoup d'auto-dérision. Je me moque de moi tout au long de la pièce et surtout quand j'ai reçu cette pièce, j'ai beaucoup ri. Et si j'ai eu envie de faire ce métier, on en a parlé tout à l'heure. Il y a rien de plus jouissif que de faire rire des gens.
Des questions concernant ce qui se passe dans la culture en ce moment. Vous pouvez essayer, Stéphane de Groot, de trouver la réponse. Qui a eu des problèmes et a été obligé de rassurer les fans d'Astérix récemment?
Guillaume Canet.
Oh bah oui, ok. Vite, ah ouais. Très bien.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce qu'il va réaliser le prochain opus.
Il a déclaré qu'il allait réaliser le prochain Astérix, qu'il jouerait Astérix et que Gilles Lellouche allait jouer Obélix.
Il y a une photo.
Et ils ont posté une photo, ouais. Et ils se sont fait déchirer,
ah oui,
sur Internet. Ah, oui. Ah bon, pourquoi?
Ah, la photo, elle rend pas hommage. Surtout qu'en plus, il y a eu le dessin animé d'Astier et qui a vraiment
marché.
Puis surtout rajeuni l'image d'Astérix.
Non, pardon, Gérard Depardieu a toujours été Obélix, oui, dans, oui, tous, oui, les films.
C'est-à-dire
qu'il
y a eu Astérix de Chabat, ouais, Mission Cléopâtre qui a très bien marché, mais c'est ensuite ça. Le dessin animé Astérix Obélix, tout le monde a considéré que c'était une réussite à tout point de vue. Donc revenir un petit peu en arrière avec cette photo, forcément, les fans sur Internet, ils n'étaient pas contents.
Vous avez joué dans Astérix?
J'ai joué dans deux Astérix, ouais.
Ouais.
Effectivement, Obélix et Depardieu.
Donc ça, vous avez la même réaction que tout le monde en disant, mais comment Gilles Lellouche peut se retrouver en Obélix?
Alors, c'est un magnifique acteur, donc je suis sûr qu'il va pouvoir réinventer
le rôle. Et réalisateur, oui, il n'y a pas de mais débat
donc,
sur
donc
le...
C'est vrai que c'est intéressant, ça va être intéressant de voir comment ils vont pouvoir réinventer Astérix avec
l'incarnation,
cette nouvelle distribution.
Dur. Ouais, c'est dur. Ouais.
Quel nouveau lieu touristique va-t-on pouvoir visiter en Ukraine?
Tchernobyl.
Ouais.
Ouais.
Mais c'est déjà le cas.
Oui.
C'est déjà le cas.
La salle de contrôle du réacteur 4.
Ah oui, pas encore.
On va même rentrer dans le réacteur.
Celui qui est à l'origine de l'explosion.
C'est dingue.
Pour repartir avec un petit bouddhiste de top.
Toi, je sais pas. Vous en pensez quoi, Stéphane de Groot?
Je sais pas, moi je préfère aller ailleurs en fait.
C'est sordide.
Tchernobyl, c'est une série d'ailleurs. Vous l'avez.
Je suis dedans.
Ah, vous êtes en train de la regarder?
Oui.
Vous aimez?
Ah oui, j'aime beaucoup.
Ça finit mal.
C'est
bon, c'est l'histoire.
Bah, Nagui, c'est comme le Titanic, on peut dire, ça finit mal.
Dis pas, t'es fou.
Sinon,
le Danemark et l'Islande connaissent une grande brouille culturelle et donc diplomatique en ce moment. Savez-vous pourquoi?
À cause des glaciers.
Non.
Ils revendiquent quelque chose, tous les deux. Ouais. Forcément, mais alors ça peut être quoi?
Un personnage.
La langue inuite.
C'est un lien avec leur taille?
Un plat. C'est pas gastronomique, c'est par rapport quoi? Un patrimoine mondial.
Oui.
Ouais.
Un glacier.
Ah, je l'ai lu,
le pôle
ça.
Nord.
Je l'ai lu, mais.
Ah,
je...
la Groenland.
Ultima chose par rapport au Groenland. Non, c'est culturel par rapport au patrimoine mondial.
Ouais, c'est ça. Mais je sais plus.
Par la sirène.
Je pourrais pas dire.
Non, ce sont des manuscrits du Moyen-Âge qui racontent les légendes des siècles vikings, les batailles des rois, les dieux.
Voilà, c'est ça, oui.
Les dieux, l'Islande réclame au Danemark des manuscrits médiévaux d'une valeur inestimable légués au XVIIIe siècle par un érudit islandais à l'université de Copenhague. Et Copenhague ne veut pas, évidemment.
Les sagas.
Les rendre ces documents. Bon, c'est pas grave.
Chance de trouver quand même zéro. Hein.
Mais non, tu vois, je l'avais lu, mais je savais plus ce que c'était.
Oui, bien sûr.
Voici Frédéric Seix.
Non, pas trop mal. J'ai
bravo Frédéric.
C'est vraiment mesquin.
Ça va Frédéric?
Alors, vous vous en souvenez, il y a quelques mois, je vous apprenais qu'un rat avait élu domicile dans le composteur au fond de mon jardin et que par respect de l'environnement, ma femme et moi, on se refusait à utiliser du poison. Oui, vous en souvenez?
Oui,
bien sûr.
Et ben ça y est, on a un chat. Alors à celles et ceux qui pourraient nous accuser de sous-traiter l'exécution du rat en utilisant son prédateur naturel, je vous invite à voir ce chaton. Hein, vraiment, c'est pas un violent. La seule chose qu'il a supprimée dans ma maison pour l'instant, c'est le peu de dignité qui nous restait à ma femme et moi. Hein, parce qu'il faut voir comment on lui parle, c'est devenu ridicule. On a « Oh, mais c'est qui, Nishti Pepper ?» C'est qui? Mais qui voulait faire un gros dodo sur son papa? Hein? Il voulait faire un gros dodo? On dirait Daniel qui accueille Albert le matin au bureau. Et ce chat, c'est une boule de mignon avec du poil autour. Pour exterminer le rat, on avait commandé Schwarzenegger, on a reçu Stéphane Bern. Donc ça y est, on a un chat, disons plutôt que le chat nous a eu, hein, dixit les autres propriétaires des chats. Oui, parce qu'avant d'adopter le nôtre, on s'est renseigné auprès d'amis qui avaient déjà des chats, et vraiment, j'ai remarqué, ils sont chelous les propriétaires de chats. Hein. Et d'ailleurs, je crois que vous avez eu des chats, Leïla Yanagi. Hein.
J'en ai deux, moi.
En tout cas, il y a un rapport d'amour-haine avec leurs animaux.
On est chez eux.
Oui, mais voilà, on est en plein syndrome de Stockholm. Moi, j'ai des amis qui ont des chats, ils m'ont dit, t'as l'impression qu'ils ont été pris en otage et que le chat leur a donné une autorisation de sortie, parce que quand ils t'en parlent, ils ont le regard vite trop, ils tremblent, ils sont là. Oh non, Frédéric, oh non! C'est pas toi qui as choisi le chat. Non, c'est le chat qui t'a choisi. Tu crois encore être chez toi, mais. Non, parfaitement. T'es chez lui, tu verras, tu verras. Faut que je te laisse, il m'a demandé, il m'attend à manger. T'es un propriétaire de chat, on dirait Eric Zemmour qui te parle des Arabes. C'est fascinant. T'es, pour le choisir, on est passé par la fondation Brigitte Bardot. Et j'avoue, ça m'a posé question.
Ah ouais.
Parce que Brigitte Bardot, disons,
c'est
pas ma personnalité préférée. Hein. On me dirait, Frédéric, t'as le choix entre passer une soirée en compagnie de Brigitte Bardot ou d'avoir des dents en mousse. Je dirais, je m'en fous, j'aime bien les soupes. Alors, bien sûr, je sais que certains vont me dire, oui, mais Brigitte Bardot, monsieur Sigrist, c'est un monument. Oui, bah, Notre-Dame aussi, hein, ça l'a pas empêché de partir en torche. Et Bardot, quand tu l'écoutes, tu serais pas contre le fait qu'elle soit fermée pendant 5 ans au public, des fois. Hein. Alors, faut-il séparer l'homme de l'artiste, la femme de sa fondation? Et puis, je me suis souvenu de ce que Leïla m'avait dit un jour. Dis, Fred, t'es sûr que t'es assez connu pour te priver du public facho? Hein, tu crois que Nagui, il fait 27% de part de marché avec SOS Racisme? Je dis, elle a pas tort. Donc, j'y suis allé. Et c'est une amie qui connaît très bien la fondation Brigitte Bardot qui leur a dit qu'on recherchait un chaton. Ils m'ont donc téléphoné au préalable pour me attester de ma motivation à avoir un chat.
Ah ouais.
J'ai passé une audition pour avoir un chat. Au téléphone, ils m'ont demandé si, enfant, j'avais déjà eu des chats, si j'avais une maison, la superficie de la maison. Là, j'ai demandé s'il y avait des chats qui avaient certains standards, en dessous duquel ils refusaient l'adoption. Elle m'a demandé mon métier. J'ai demandé, mais vous qui les connaissez bien, les chats, vous pensez qu'ils vont accepter mon dossier? Je peux peut-être avoir un garant. J'étais à deux doigts de dire que je vous connaissais, Nagui. Hein. La dame au téléphone, elle m'a demandé.
Pas Brigitte Bardot, vous mieux.
Non, pas Brigitte Bardot, mais elle n'était pas là. C'était pas elle que j'ai eu au téléphone. La dame au téléphone m'a demandé si j'étais prêt à m'engager, si c'était du sérieux. Là, je lui ai dit, mais vous vous rendez compte que vous me posez des questions que mes beaux-parents m'ont jamais posées. Elle m'a donné rendez-vous dans un refuge de l'Ouest parisien pour l'adoption. J'ai eu la pression qu'elle m'avait mis au téléphone. Moi, j'ai mis mes enfants sur leur 31. J'avais emprunté le badge RTL de Tanguy parce que ça faisait plus sérieux que le Pins France Inter. J'avais même revu le mépris de Godard des fois que ça tombe à l'examen. Quand on est arrivé au refuge.
Tu les aimes, mes fesses.
Oui, voilà. Mais j'avais fait ça pour les animaux. Tu les aimes, mais pas. Quand on est arrivé au refuge, je suis tombé à la renverse. Une propriété magnifique au milieu d'une forêt sur plusieurs hectares avec des chevaux, des chiens, des poules, des cochons, des socialistes hyper bien traités. Le lieu d'une propreté. Franchement, quand j'ai vu où vivaient ces animaux, moi j'ai hésité à me foutre à poil et à me mettre à quatre pattes pour rester là. Alors, ils m'ont dit, oui, mais monsieur, si vous restez là, il va falloir vous stériliser. Je dis, vu le cadre, ça le vaut. Ils nous ont amenés dans une petite maison, mais spécialement réservée aux chats. Mais vraiment, hein, quand j'ai vu la baraque, j'ai compris les questions. Hein. Pour le chat, venir chez moi, c'est pas une adoption, hein, c'est un déclassement. C'était magnifique. Et là, on est tombé sur Coxie, un chaton de 3 mois adorable qui passe son temps à faire des câlins à mes gosses. Moi, je voulais l'appeler Polanski, tu vois. Et Coxie, c'est le nom que le personnel du refuge lui avait donné. C'est un nom de Pokémon, et vu que mes gosses ne trouvaient pas ça assez raffiné, ils l'ont rebaptisé Mimiki, qui est un autre nom de Pokémon. Voilà, j'ai un niveau d'attente très très bas professionnellement pour ces enfants quand même. Hein. Tout ça pour dire merci à la Fondation Brigitte Bardot pour le travail qu'elle fait pour ces animaux brisés par la vie. N'empêche, quand je vois tout le bien qu'elle a fait aux animaux maltraités, imaginez le bien qu'elle aurait pu faire si ça avait été des êtres humains.
Merci,
avec Nagui.
Et pour te voir en vrai, Frédéric Sigrist, c'est le 12 décembre au Théâtre de Valence. Et puis le 31 décembre aussi, oui. Tu vas bosser ce soir-là, ça sera à Lyon, à la Bourse du Travail.
Avec Olivia Moore, Jérémy Crédville.
Ah bah, belle équipe.
C'est pas un spectacle pour les âgés lastes.
T'as attendu
la deuxième. C'est genre le mec discrètement là sur la ligne d'arrivée, hop, je le glisse. Au Théâtre de la Renaissance, donc à partir du 25 janvier, Stéphane De Groot, Olivia Cotte, Isabelle Gélinas pour Un amour de jeunesse, cette pièce signée Yvan Calberac, et tout de suite en vente libre, Livre de mots signé Stéphane De Groot aux éditions de l'Observatoire. Leïla, qu'est-ce que tu retiens du talent et de l'humour et d'intelligence de Stéphane
Ouais,
De Groot.
Toujours la même malice, la même envie comme ça de faire danser les mots, et c'est la dimension poétique dont on a peut-être pas beaucoup parlé aussi dans le bouquin, enfin dans l'émission. Il y a au-delà des réflexions que ça a conduit, il y a quand même quelque chose de très d'éminemment politique.
Merci.
Et poétique.
Tanguy Passureau.
Bah moi je suis incapable de faire des jeux de mots, j'ai pas du tout cette science. Non mais vraiment, c'est un truc rarement en fait. J'en ai pas fait 2 en 3 ans, quoi.
Ouais.
Et donc voilà, j'admire, parce que c'est un truc que je maîtrise pas du tout, donc je peux passer à côté du nom rigolo de quelqu'un pendant 4 ans avant de me dire, ah bah oui, il s'appelle Calamar, ou ouais. Ce genre de choses.
C'est vrai que t'es pas bon.
Voilà, c'est ça.
Alexis.
J'arrête cette carrière.
Moi, je maîtrise assez bien les jeux de mots. Non, j'aime beaucoup ce que fait Stéphane De Groot. Et alors, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, c'est un vrai bouquin de toilette, c'est-à-dire que c'est ce genre de livre qu'on peut avoir dans les toilettes et relire, et qui peut rester 2-3 ans. Et on va toujours avoir plaisir à le feuilter, le prendre dans tous les sens.
Le livre doit rester 2-3 ans.
Ouais. Si on se replonge dedans.
Frédéric Siris.
Et ben moi, ce que je retiens, c'est que Stéphane De Groot a débarqué à France Télé pour travailler en France, alors qu'en fait, il aurait débarqué à France Inter, et ben il aurait eu une carrière immédiate.
Ah oui, en tant que Belge, un carton énorme.
Mais j'ai bossé ici avec Pascal Clark pendant un an.
Ah, très bien, on la salue, on l'embrasse.
Exactement.
Pascal, ouais. Daniel Morin.
Moi, ce que j'aime avec Stéphane, c'est justement qu'il a la politesse d'évoquer certains sujets, comme la mort, par exemple, mais pas de façon frontale, et ça, c'est une grande pudeur, et j'apprécie énormément.
Merci.
Albert Algout.
Il n'y aurait pas eu de Madeleine de Proust s'il avait écrit « À la recherche du pain perdu ». Ça me fait beaucoup rire.
Oui.
J'ai adoré cette
pain
phrase.
Pain perdu, plaisir retrouvé.
Génial, oui, ouais. Aussi, également.
Qu'aimeriez-vous qu'on dise, après avoir lu votre livre, Stéphane De Groot?
Mais j'ai vu passer un message l'autre jour sur Internet des gens qui avaient acheté le bouquin, qui l'avaient déjà lu et qui disaient encore. Et donc c'est plutôt chouette de se rendre compte que les gens ont encore envie de me lire. Voilà, c'est toujours un miracle de voir alors, un livre qui est accroché d'un livre et que les gens s'en emparent.
Je leur réponds à ce moment-là, ceux qui disent encore, relisez-le. Parce que je l'ai fait deux fois en fait. J'ai lu une première fois extrêmement rapidement en me disant, ça se lit vite. Et puis avant-hier pour préparer... repréparer à nouveau l'émission, je l'ai relu, mais en prenant plus de temps, c'est en m'arrêtant sur, et pas en m'arrêtant sur le jeu de mots, la vanne et en riant, mais sur le fond, plus sur la forme.
Et ça se lit vite et ça se comprend lentement.
Moi j'ai fait la même chose avec mon contrat à France Inter, je l'ai relu deux fois et j'ai fait la deuxième.
Tu as beaucoup ri.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien évidemment, désolé pour Muriel, l'éditrice de Stéphane De Groot qui, on l'a bien compris, s'est faite bien arnaquée. Voilà, si vous saviez Muriel, l'escroquerie en fait dans cette bande, on condamne mais... Pas du tout, on peut comprendre, j'en connais même un ou deux qui pratiquent ça, ils sont même là, autour de cette table. Désolé pour Stéphane De Groot, j'ai déposé les expressions phrase terminale et âge hélas, si vous voulez en utiliser une comme épitaphe, faudra me payer des droits d'auteur. C'est moche, je sais, en même temps, je fais partie des deux escrocs que je connais. Désolé pour Nagui qui a loupé il y a quelques années Stéphane De Groot sur Canal+, mais et oui. Qui se retrouve aujourd'hui sur France Inter avec Alexis le Rossignol. Voilà.
Chute infernale. Merci Stéphane.
Merci.
Bonne journée. Stéphane De Groot à l'Observatoire, livre de mots. Et lundi, Franck Dubosc sera notre invité. Tout de suite, des carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée, bon week-end sur
Internet. Ciao.